Alleluia.
Tout puissant et majestueux, tu es grand et glorieux. Ta présence est manifeste dans l'amour.
Ce matin, Dieu de la création, Dieu tout-puissant, Dieu souverain, Dieu éternel, Dieu très haut, Dieu majestueux, Dieu glorieux, Dieu incomparable, toi qui es le souverain des rois de la terre, ce matin encore nous sommes dans ta présence, dans le saint sanctuaire, devant ton trône de grâce où la miséricorde de Dieu est manifestée pour ton peuple. Ce matin, nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureuses d'être cette nation dont tu es le Dieu. Que ton nom soit béni ce matin, toi le Dieu grand, le Dieu capable, le Dieu tout-puissant, le Dieu mystérieux, le Dieu insondable qui peut connaître tes voies. Lorsque tu as créé ce monde qui a été ton conseiller, tu es égal à toi-même. Tu sondes toutes choses, tu connais toutes choses, rien n'échappe à ton contrôle et à ta sagesse infinie. Tu confonds, Seigneur, les méchants de ce monde, tu relèves ceux qui sont tombés, tu bénis ceux qui sont maudits, tu bénis ceux qui sont rejetés, tu rehausses la valeur de tes enfants. Ce matin, nous te bénissons parce que ce que nous sommes, c'est le produit de ta grâce. Ce matin, nous te bénissons parce que ce que nous sommes, c'est la manifestation de ton amour. Seigneur, merci de ce que par la croix tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons aucun mérite, nos mérites, c'est Jésus-Christ qui est le seul mérite de ton peuple. Merci, toi, le Dieu Tout-Puissant, célébré par toutes les nations, par tous les continents. Tu es Dieu qui est semblable à toi. Tu es honoré par ton peuple, honoré de toutes les langues. Tu entends toutes choses, tu connais toutes choses. Béni sois-tu ce matin parce que tu nous donnes encore l'opportunité d'être dans ta présence, l'opportunité de communier, l'opportunité de partager, l'opportunité de nous édifier dans ta sainte présence. Tu es le Dieu saint. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y aura pas d'autre Dieu. Tu es égal à toi-même. Celui qui était, celui qui est, celui qui revient bientôt. Jésus de Nazareth, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu détiens les clés du séjour des morts. Lorsque tu parles, tu changes les circonstances. Lorsque tu parles, tu changes les situations, les conditions. Éternel mon Dieu, toi qui redonnes de l'espoir à ceux qui sont désespérés, la force à ceux qui sont faibles. Oui, tu es l'appui de celui qui est fragile, de celui qui est courbé, tu le relèves. La Bible déclare que tu es venu, Jésus, pour être un signe qui va provoquer la contradiction, pour être un signe qui va relever beaucoup, pour être un signe qui va rabaisser beaucoup. Ô Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre abri, tu es notre forteresse. Tu es celui en qui nous avons cru, nous espérons en toi, nous comptons sur ta grâce, nous croyons que tu es vrai, nous croyons que ta parole est vérité, ta parole change, elle transforme, elle nous bénit, elle nous accorde, Seigneur, d'être conforme à l'image de Jésus. Ce matin, je prie encore que tu nous aides à pouvoir comprendre le mystère de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être ce matin des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux-là qui écoutent pour mettre en pratique ta parole. À quoi bon servirait de parler de ta part si cela n'est pas mis en pratique ? Aide-nous, Seigneur, nous te supplions, parce que nous avons un désir ce matin, c'est de te ressembler, Jésus, c'est de faire ta volonté, cette volonté qui est bonne, cette volonté qui est agréable et cette volonté qui est parfaite. Mon âme te bénit ce matin, toi le berger de nos âmes. Mon âme te bénit ce matin, toi celui qui a payé un prix si important pour que nous soyons là. Merci Seigneur pour ta présence et pour mon frère, pour ma sœur qui s'est disposé ce matin à venir en ces lieux pour écouter le son de ta voix au travers des saintes écritures. Que l'honneur, la louange te reviennent à toi le Dieu très haut, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, merci Seigneur et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes encore honorés ce matin d'être dans la présence du Seigneur. Nous sommes à quasiment 2 semaines, si je ne me trompe pas, de la fin de cette année. Et il est important pour nous de comprendre effectivement ce que Dieu attend de l'Église. Si tu es l'Église de Jésus-Christ, certainement que Dieu a des choses à nous faire comprendre. Et ce matin, nous allons voir un certain nombre de vérités que l'Église doit comprendre. Parce que nous n'avons pas été parachutés comme ça, nous ne sortons pas du néant. Dieu a déployé beaucoup de choses pour que nous soyons ce que nous sommes. Amen. Dieu ne s'amuse pas avec les humains. Dieu est très sérieux dans tout ce qu'il fait sur la terre. Et nous devons aussi être au même niveau de sérieux, si on peut le dire ainsi, que le Seigneur. Nous avons vu il y a 2 semaines en arrière de la consécration, de la vocation à la consécration. Ce sont des sujets, ce sont des thèmes qui reviennent encore dans mon cœur ce matin. Vous savez, le but, ce n'est pas de vous donner beaucoup de connaissances. Le but, c'est que nous comprenions l'essentiel. Amen. Lorsque nous avons compris l'essentiel, le reste, ça sera un déclic. Il n'y aura pas vraiment des efforts à faire. Mais lorsque nous ne comprenons pas l'essentiel que Dieu veut faire comprendre à l'Église, c'est pourquoi nous aurons toujours des problèmes dans notre marche avec le Seigneur. Et je vous ai dit la dernière fois que l'essentiel, c'est de comprendre la vocation. Le grand problème du chrétien, du christianisme aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas notre vocation. Nous ne comprenons pas la vocation. Et je vous ai dit que la consécration n'est que le résultat. Généralement, nous avons peur, on se dit, « Waouh, la consécration, comment je vais me consacrer ? C'est difficile. » Non, la consécration n'est que le résultat de notre vocation. On ne peut pas consacrer quelqu'un qui n'a pas une vocation. Quelqu'un qui n'a pas une vocation ne peut pas se consacrer. Donc, c'est important pour l'Église de comprendre la vocation. Et nous allons y revenir pour que vous compreniez très bien que nous avons une vocation. Tout part de là. Je vous dis la vérité, en vérité, en vérité, ce matin encore, le Saint-Esprit pouvait imprimer de nouveau cela dans mon esprit. Tout part de la compréhension de notre vocation. Si on ne comprend pas ce que c'est la vocation, vous savez, nous les chrétiens, nous utilisons des concepts qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, allez prenez un dictionnaire ou bien allez prendre le dictionnaire biblique. Mais n'utilisons pas des concepts pour les utiliser. Ça serait dommage. Vous allez parler des choses que vous ne connaissez pas. Nous parlons de vocation. Il est important pour l'Église de comprendre ce que c'est la vocation. Et nous avons vu la dernière fois que vocation était un mot tiré du grec. Du grec qui veut dire kaleo. Kaleo, K-A-L-E-O. Kaleo qui veut dire ceux qui sont appelés. Et kaleo a donné ecclésie, c'est-à-dire ecclésia, l'église, ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc vocation vient du grec kaleo, ce sont ceux qui sont appelés. Donc la vocation, c'est des personnes qui ont un appel, qui sont appelés à faire quelque chose. Et c'est important pour nous de le savoir, que nous sommes un peuple qui a une vocation. Il n'est pas venu, je vous l'ai expliqué la dernière fois, nous sauver pour nous sauver. Je vous ai dit que Dieu ne fait rien pour rien sur la terre. Dieu fait toutes choses avec un but. Dieu poursuit toujours quelque chose lorsqu'il descend d'agir sur la terre. Dieu ne s'ennuie pas au ciel pour dire « Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire sur la terre ?» Non. Lorsque Dieu décide de quitter le ciel pour la terre, c'est pour accomplir quelque chose. Lorsque Dieu décide de visiter quelqu'un, une famille, c'est pour faire une œuvre. Dieu ne s'amuse pas avec les hommes, mais il est très sérieux dans ce qu'il fait sur la terre avec nous. Et donc ce matin, nous allons voir, on ne va pas revenir sur ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament la dernière fois. Ce matin, nous allons voir un ensemble de vérités importantes que nous devrions comprendre en tant qu'Église. Et nous allons voir trois grandes vérités importantes ce matin. Et si l'Église de Jésus-Christ comprend ces choses, alors il y a quelque chose qui va changer dans sa manière de servir Dieu sur la terre. On a un grand problème, c'est servir le Seigneur parce qu'on n'a pas compris notre vocation. Nous allons dans le livre de Pierre. On va dans le livre de Pierre pour essayer de comprendre encore une fois ces vérités et qu'il plaise au Seigneur de nous aider à pouvoir les comprendre un peu plus en profondeur. Donc, six grandes vérités que l'Église doit connaître. Donc, ce matin, nous allons voir six grandes vérités que l'Église, que tu es, que je suis, que nous devons connaître, que nous devons savoir, que nous devons nous approprier, s'il vous plaît, parce que c'est important. La non-compréhension de ces choses-là va nous créer des problèmes dans notre marche avec le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et au travers de ce passage, nous avons ces vérités que le Saint-Esprit veut que l'Église comprenne. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. Vous, au contraire, je reprends ce passage, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Donc on va être très pratique ce matin, parce que Pierre aussi est très pratique. Il dit au verset 9... Vous, au contraire, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, la première des choses qui nous révèle ici, bien sûr, c'est la notion de race élue. Et j'aimerais revenir un peu là-dessus. Vous êtes une race élue, et nous avons lu dans la version anglaise, on nous parlait d'une génération choisie. Cette version dit une race élue, mais la version anglaise dit nous sommes une génération choisie. Ça veut dire que nous sommes le choix de Dieu. Et ce sont des mots, ça peut sembler être des simples mots, mais c'est la vérité. Et je ne sais pas, lorsque vous lisez l'Écriture et que vous réalisez cela, est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu es le choix de Dieu? La Bible dit que nous sommes une génération choisie, une race élue. Dieu a regardé dans ta famille. Il t'a regardé, dis-toi, je t'ai choisi, viens. Ils étaient nombreux ce jour-là, au bord de la mer. Ils étaient nombreux, ils étaient beaucoup de pêcheurs. Mais le Seigneur, il est arrivé, il a vu Pierre, il a vu André, il leur a dit, vous, suivez-moi. Il les a choisis, ils étaient nombreux, n'est-ce pas? Mais c'est comme toi, dans ta famille, tu n'es pas seul. Tu as connu Jésus, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, tu es le choix de Dieu. Et c'est important d'abord de s'arrêter là. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, s'il vous plaît, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Tu as été connu d'avance de Dieu. L'élection de Dieu. Il y a eu une cérémonie d'élection et le regard de Dieu s'est porté sur toi. Et donc, la première grande vérité que tu dois comprendre, c'est que tu es une personne qui a été choisie par Dieu, et la vérité doctrinale de ce passage, nous sommes en train de parler de l'élection. L'élection. L'Église doit comprendre, ceux qui composent l'Église doivent comprendre qu'ils ont été choisis par Dieu, ils ont fait l'objet de l'élection divine. C'est ce que nous appelons l'élection. Et la dernière fois, j'ai parlé un peu de Rachel et de Léa. Pourquoi j'ai parlé de Rachel et de Léa? Parce que tout simplement, l'élection de Dieu, le choix de Dieu, ne dépend pas des critères humains. Dieu ne choisit pas à la manière des hommes. Dieu ne porte pas ses regards comme les hommes regardent. C'est pourquoi lorsque Samuel est rentré dans la maison d'Isaïe, le fils d'Isaïe était là, et normalement, logiquement, le plus grand, le plus fort, le plus beau devait être le choix. Mais le Seigneur a dit à son serviteur, ne regarde pas à l'apparence. Parce que justement, le choix de Dieu ne dépend pas de ton apparence. Le choix de Dieu ne dépend pas de ta situation sociale. Le choix de Dieu ne dépend pas de ton niveau d'éducation. Le choix de Dieu ne dépend pas de tes diplômes. Le choix de Dieu ne dépend même pas de ta spiritualité. Elle dépend de Dieu. C'est-à-dire, il dépend de Dieu seul. Ça peut paraître une folie, mais c'est comme ça que les choses sont. Alors, Rachel avait tous les attraits physique extérieur qui faisait d'elle Miss Charon. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible précise. Et lorsque la Bible ne précise pas pour rien. La Bible dit que Laban avait deux filles. La première, c'était Léa, qui avait les yeux délicats, qui avait un problème de yeux. La seconde était Rachel, et la Bible précise dans Genèse 29 que Rachel était belle de figure. 1. Belle de figure. 2. Belle de corps, s'il vous plaît. Alors, lorsque la Bible précise cela, ce n'est pas pour rien. Rachel était belle de figure, belle de corps. Et la Bible déclare que lorsque Jacob a vu Rachel, il a aimé Rachel. Mais mes amis, Jacob n'a pas aimé la spiritualité de Rachel parce qu'il ne connaissait même pas qui elle était spirituellement. Jacob a aimé un corps qui manifestait tous les attraits extérieurs pour attirer les regards. Jacob a aimé une femme qui était belle d'apparence. Jacob a aimé quelqu'un qui avait les attraits que le monde aime aujourd'hui. Jacob n'a pas fait son choix par hasard, parce que certainement que Rachel devait être la fille la plus séduisante du village. Elle était jolie. La Bible précise, belle de figure, belle de corps. Aujourd'hui, là, c'est ce qu'on cherche dans le monde, n'est-ce pas? C'est belle de figure, là. Belle de corps. On va encore chercher quoi? Dites-moi un peu. Est-ce qu'il faut même avoir une révélation de Dieu pour aimer une telle personne? C'est ce que le monde aime. Belle de figure, belle de corps. Et Jacob, qui n'était pas encore converti en Israël, donc encore charnel qu'il était, il a choisi, il a porté son choix sur Rachel. Voilà, il a choisi. Sur la base du standard du monde, de la vie, il faut que la personne soit jolie. Et Léa, qui était pourtant l'aînée, Léa était rejetée. Vous savez pourquoi elle était rejetée? Mais la pauvre, elle n'était pas belle de figure. Elle n'était pas belle de corps. Elle avait en plus des problèmes avec ses yeux. Imaginez un peu la pauvre Léa, le complexe qu'elle avait en tant que femme. Tout le village parle de Rachel. Tous les garçons courent derrière Rachel. Et elle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lui font la cour. Elle devait se poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi les gens ne s'approchent pas de moi? Oui, parce que Léa n'avait pas ce que le monde cherche. Léa n'avait pas les valeurs du monde, c'est-à-dire elle n'était pas belle de figure, belle de corps. Ce qui fait que les garçons ne pouvaient pas s'intéresser à elle. Elle a été rejetée parce qu'elle n'avait pas les attraits que le monde recherche. Mais ce qui est important justement par rapport à l'élection, puisque j'ai dit que l'élection de Dieu ne dépend pas de ce que nous pouvons être, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons posséder. Amen. Dieu voit au-delà de ce que les hommes ne voient pas. Et lorsque Léa était rejetée, Dieu regardait Léa pas comme Jacob voyait Léa. Jacob a vu une femme qui n'était certainement pas jolie, il a choisi, il a écarté, il a choisi quelqu'un d'autre. Mais lorsque Dieu a vu Léa, il a vu ce que les hommes ne pouvaient pas voir. Qu'est-ce qu'il a vu? Dans le plan de Dieu, dans Genèse 3:15, il a dit que la descendance, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Depuis la Genèse, Dieu avait déjà mis en place le plan de la rédemption, le plan du salut. Le Sauveur devait venir au travers de la descendance de la femme. Et tout le travail que Dieu a fait de la Genèse jusqu'à ce que nous entrons dans le livre de Malachie, jusqu'aux 400 ans de silence avant que l'ange Gabriel vienne rencontrer Marie, ben c'était pour préparer le salut qu'il avait annoncé dans Genèse 3:15. Tout le travail qu'il a fait, d'Abraham au prophète, tout ce que vous voyez dans la Bible, ce n'était que le temps de la préparation pour la manifestation du salut de Dieu par Jésus-Christ. Tout, je dis bien tous les types, les symboles, tout ce que vous voyez là, ce n'était que des types, des images qui parlaient de Jésus-Christ, Amen. Notre Sauveur. Tout, je dis bien tout. Hein. Et lorsque Dieu a regardé justement Léa, parce que dans le plan de Dieu, j'aimerais te dire ce matin, Dieu que nous prions, c'est un Dieu de but, de plan, de projet. Dieu a un plan pour le monde, Dieu a un plan pour l'humanité. Il faut que toi, Église, tu saches que ton Dieu, il a un plan pour le monde. Dieu ne fait pas les choses dans le désordre. Dieu ne crée pas les circonstances pour créer les circonstances. Dieu ne crée pas des événements pour créer des événements. Tout ce qui se passe dans la Bible, tous les événements catastrophiques et tout ce que Dieu a permis, c'était dans le plan de Dieu. C'était pour aboutir à quelque chose qui faisait partie du plan divin. Je dis bien, tout, Dieu a fait concourir toutes les circonstances, tous les événements. C'est pourquoi vous voyez que même lorsqu'il y a eu la famine à Bethléem pendant 10 ans, cela faisait partie du plan de Dieu. Alors, tous les événements, Jacob qui vole le droit d'aînesse, qui s'enfuit, qui se retrouve à Charon, ça faisait partie du plan de Dieu. Pour aboutir à quelque chose qui était dans le plan de Dieu. Tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est à cause de son plan. Il y a quelque chose que Dieu recherche, il y a quelque chose que Dieu veut faire sur la terre. Donc, tous les événements qui se produisent, ce n'est pas par hasard. Dieu n'est pas étonné, Dieu n'est pas surpris par tout ce qui se passe sur la terre. Tout ce qui se produit doit converger vers le plan divin. Je dis bien tout doit converger vers le plan de Dieu. Alors quel était le plan de Dieu? Ben le plan de Dieu, il fallait qu'un sauveur vienne sauver l'homme. Et il a mis en place tous les moyens pour que ce sauveur arrive. Toutes les conditions pour que ce sauveur se manifeste. Elle était rejetée. Mais dans le plan de Dieu par rapport à la rédemption, dans le plan de Dieu par rapport au salut, lorsque Dieu regardait les filles de Laban, Dieu ne voyait pas Rachel. Dieu ne voyait pas Rachel. Dieu voyait Léa. Mais les hommes ne voyaient pas Léa, les hommes voyaient Rachel. Pourquoi? Parce que nous aimons juger en fonction de ce que nous regardons. Nous apprécions, nous qualifions en fonction de ce que nous regardons. On classifie même les personnes à cause de ce que nous regardons, à cause de ce qu'ils sont, à cause de ce qu'ils ont, à cause de leur possession, à cause de leur titre, à cause de leur diplôme. Elle n'était pas le choix de Jacob, mais cette femme était le choix de Dieu. Et pour les lecteurs de la Bible, vous pouvez lire ça comme ça, ça ne vous dit rien, mais lorsque j'ai médité là-dessus, je remercie le Saint-Esprit pour m'avoir donné la révélation. Moi, j'ai lu comme vous, hein, mais il y a quelque chose qui a fait titre dans mon esprit. Elle était le choix de Dieu. Dieu l'a rendue féconde. C'est déjà une bonne chose. Hein. Et elle a commencé à faire des enfants parce qu'elle n'était pas aimée. La Bible dit que Jacob n'a pas aimé Léa. Il ne l'a pas aimée. Elle a commencé à faire des enfants. Le premier, Ruben. C'est une bonne chose. Et tout ce qu'elle a fait, c'était pour plaire à son mari. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour avoir le regard de son mari. Tout, elle voulait tout faire pour lui plaire. Tout. Elle fait un enfant, elle dit certainement que cette fois-ci, mon mari m'aimera. Elle avait un problème d'amour, un problème de considération. Parce que justement, elle était rejetée, la pauvre. Lisez ça dans Genèse 29. Comment la pauvre Léa, elle fait tout pour plaire à Jacob. Donc quand Ruben arrive, elle se dit certainement pas Ruben. Mon mari va m'aimer, il va s'intéresser à moi. Rien à faire. Paf, le deuxième, c'est Siméon. Elle s'est dit, ah, je lui ai donné un deuxième fils. Certainement, là, il va m'aimer, il va s'attacher à moi. Rien. Jacob ne s'intéresse pas à Léa. Et pendant tout ce temps, le Seigneur, il regarde. Il regarde. Le troisième, paf, elle fait Lévi. Jacob, ça ne lui dit rien. Le quatrième, paf, elle fait Judas. Jacob, inflexible. Et après, le quatrième, elle s'arrête de concevoir. Mais nous revenons justement les deux derniers. N'oubliez pas à quelle époque nous sommes. Nous sommes à une époque où Israël n'est pas encore une nation. Hein? Nous sommes à une époque où Israël n'est pas encore organisé sous la monarchie. Nous sommes encore au commencement, au temps des patriarches. Donc, nous avons Léa qui donne naissance à des enfants à Jacob. Et le troisième, c'est Lévi. C'est un enfant ordinaire, mais dans le plan de Dieu, il n'était pas ordinaire. Parce que de Lévi, je dis bien de Lévi est sorti la sacrificature en Israël. C'est-à-dire que le pouvoir religieux est sorti de Lévi. Moïse, le libérateur, est sorti de Lévi. Moïse était un lévite. Il est sorti de Lévi, c'est-à-dire il est sorti de Léa. Le sacerdoce en Israël est sorti de Lévi. Ça, les hommes ne le voyaient pas, mais dans le plan de Dieu, lorsque Dieu voyait la sacrificature, lorsque Dieu voyait le sacerdoce, il voyait Léa, il ne voyait pas Rachel. Nous arrivons à Judas. Judas. Oh, Judas. Mais de Judas est sortie la royauté en Israël. La prophétie de Genèse 49 dit de Judas sortiraient les rois d'Israël. Le pouvoir royal, la monarchie d'Israël n'est pas sortie de Rachel, mais sortie de Léa. Le Messie, le lion de la tribu de Judas, est sorti pas de Rachel, mais de Léa. Elle était rejetée par les hommes, mais elle était le choix de Dieu. Dieu a vu au-delà de ce que les hommes pouvaient voir. Dieu savait ce qui était en Léa. Lorsque Dieu voyait
Léa, il voyait la sacrificature, il voyait le sacerdoce, il voyait la royauté, il voyait la monarchie, il voyait David, parce que David est sorti de Juda, donc de Léa. Mais les hommes n'ont pas vu ça. Donc finalement, toute la gloire de Jacob est sortie de Léa. Toute la gloire d'Israël est sortie de Léa. Parce que les deux pouvoirs qui ont fait asseoir Israël, c'est le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Donc, Juda et Lévi, les Lévites. Le souverain sacrificateur qui est notre Jésus-Christ, il était de Lévi. Toujours Léa, fils de David, de Juda, Léa. Elle était le choix de Dieu. Elle ne le savait pas. Mais nous, aujourd'hui, nous étudions cette histoire et nous comprenons que nous étions rejetés. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Dieu avait choisi Israël, nous faisons partie des nations. Dieu n'avait pas les regards sur les Congolais, les Gabonais, les Centrafricains, les Ivoiriens. Dieu avait les regards sur Israël. Et nous étions un peuple rejeté. Il n'y avait rien en nous qui intéressait Dieu. Dieu avait porté son choix sur les fils d'Abraham. Au départ, c'était ça. Mais après, dans le même plan de Dieu, Dieu savait qu'il avait fixé un temps à cause de la désobéissance d'Israël. Il porterait ce regard sur nous. Les rejeter. Mépriser. Nous sommes devenus l'Église. Nous sommes devenus l'Église. Nous sommes devenus l'Église. L'Église. Dieu nous a choisis pour faire partie de sa nouvelle création qu'on appelle l'Église. Une nouvelle œuvre qu'il a voulu faire, un nouveau peuple qu'il a voulu avoir sur cette terre l'Église. Et c'est une Église non pas composée d'un groupe seulement issu d'une seule langue et d'une seule nation, mais de plusieurs nations. Toutes les nations se retrouvent dans l'Église. Mais quelle nation? Parce que Dieu nous a choisis. Donc la première des grandes vérités que tu dois savoir, nous sommes élus avant la fondation du monde. Léa était déjà le choix de Dieu avant même qu'elle naisse. Avant même que Jacob vienne à Charan, Léa était le choix de Dieu. Elle était le choix de Dieu dans le plan de Dieu. Dieu l'avait choisie. Elle était l'élue de Dieu. L'élection de Dieu, c'était sur cette femme. Toi aussi, la Bible dit que nous sommes une nation élue. Une génération choisie. Dieu nous a choisis. Dieu t'a élu. Si tu te déconsidères, c'est ton problème, c'est ton manque de connaissance. Mais lorsque tu as la connaissance de la vérité qui te dit que tu es le choix de Dieu, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Si tu as un problème, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Tu te considères comme un homme, une femme ordinaire. Continue à te déconsidérer. À penser que tu es n'importe qui. Mais moi, ce matin, je suis là pour dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu.
Amen.
Dieu nous a choisis. Et Dieu ne choisit pas n'importe qui. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait ce que tu es capable de faire. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait quel est le potentiel que tu peux libérer. Les hommes, peut-être, ne le voient pas. Mais Dieu sait ce qui est investi en toi. Parce que c'est lui-même qui s'est investi en toi. Il sait. Il sait ce qu'il a mis en toi. Dieu ne choisit pas les incapables. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il sait que cette personne est capable. Il le sait. Il le sait. L'élection. Race élue. Génération choisie. Donc aujourd'hui, il faut que ça soit clair dans ton esprit. Tu es l'élu de Dieu. Amen. C'est la vérité. Quelquefois, on vous raconte ça, vous avez l'impression de des histoires, parce qu'on raconte des histoires. C'est la vérité, c'est ce que Dieu dit. Je suis l'élu de Dieu. Je suis l'élu de Dieu, je suis désolé. Je suis l'élu de Dieu. Si tu n'es pas l'élu de Dieu, ça c'est ton problème. Moi, je suis l'élu de Dieu. Je sais que j'ai une place importante dans le cœur de Dieu. Je le sais. Si toi, tu ne le sais pas ce matin, je veux te rappeler que tu as une place importante dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il fait tout ça pour toi. Pensez que tout le bien qu'il vous fait là, c'est pour rien. Pensez que si vous n'avez pas de la place dans le cœur de Dieu, il aurait accepté tant d'humiliations, tant de rejets, tant de mépris, tant de déshonneur. Non. Dieu, s'il a fait, c'est parce qu'on a du prix à ses yeux. On est précieuse à ses yeux. Et la deuxième des choses, il est écrit un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Et nous avons dit la dernière fois que le sacerdoce, ce sont les fonctions sacrées. Donc le service que nous rendons au Seigneur, c'est un service qui est sacré. Savoir que nous sommes au service du roi des rois, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu que nous avons été sauvés pour le servir. Mais nous sommes en train de servir qui? Est-ce que nous servons un homme? Est-ce que nous servons un homme?
Non.
Qui servons-nous? Sacerdoce royal. Nous sommes à la cour du roi des rois. Nos fonctions sont sacrées. Nous servons le roi de toute la terre. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour celui qui a établi toute domination. Savoir que nous sommes un sacerdoce royal, que nous faisons fonction, que notre service, c'est un service royal. Ce sont des vérités que l'Église doit comprendre. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, nous avons vu qu'il s'agissait de l'élection. Là, maintenant, quand nous parlons de sacerdoce royal, nous parlons aussi de consécration, bien entendu. La consécration. Pourquoi? Parce que la consécration, c'est se mettre à la disposition de trois points de suspension. Tu te mets à la disposition de qui? Mais du roi des rois. Nous avons été sauvés pour être consacrés, pour être mis à la disposition de Dieu. Et cette vérité, il faut que l'Église comprenne. Je vous dis la vérité. Si vous ne comprenez pas ces choses, ça va être difficile votre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi nous servons Dieu de manière désordonnée, parce que nous ne savons pas qui nous servons. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'elles servent, même si la personne elle n'est que portier ou bien elle fait le ménage dans la maison d'un grand monsieur, elle est fière, hein, elle a même de l'orgueil de savoir que je suis à la cour de X ou de Y. Elle a de l'orgueil. Mais nous les chrétiens, on n'a même pas entre guillemets, cet orgueil positif de savoir que nous servons le roi des rois, le Dieu de toute la terre. On n'a même pas ça. On n'a même pas cette fierté-là de savoir qu'on sert quand même pas n'importe qui. C'est le Dieu de toute la terre. Vous savez ce que ça représente? On n'a même pas cette fierté-là de savoir que nous sommes à la cour du roi des rois et que c'est lui que nous servons. On n'a même pas la fierté. Mais tu devais être fier de savoir que tu es un instrument de Dieu. Tu devais être fier que les regards de Dieu sont sur ta vie. Et que Dieu te fait confiance. Et que Dieu veut t'utiliser comme un ouvrier pour faire avancer le royaume. Il n'y a même pas cette fierté dans ton cœur. Tu es là seulement chrétien, tu viens à l'église, c'est tout. Tu n'es même pas fier de ce que tu es devenu en Jésus. Il n'y a pas de fierté. Je travaille pour le royaume des cieux. Je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'as même pas cette fierté-là. Il n'y a pas ça. Tu es fier pour autre chose. Mais pour Dieu, c'est comme si tu as honte de ton Dieu. Qui a honte de Dieu ici ce matin? Vous n'aurez pas le courage de lever la main. Tu as honte de Dieu. Même pour dire que tu es chrétien, là, tu te balbuties. Tu n'as même pas le courage de dire qui tu es. Tu as honte de Dieu. Pourquoi tu as honte de Dieu? Tu as honte du Seigneur. Tu devais être heureux. Tu as honte de Dieu. Mais tu devais être fier. Pourtant, Jésus a dit, la nature doit nous enseigner toutes choses, n'est-ce pas? Mais nous, on n'est même pas fiers. Il n'y a pas de fierté. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous, les chrétiens, on n'a pas cette fierté-là de le servir. Tu n'es pas fier. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait Dieu? Qu'est-ce qui t'a fait le Seigneur? Mais tu devais être fier, même si on t'appelle un fanatique, tu devais être fier. Oh, j'appartiens à un peuple à qui? Le souverain que je prie, que je sers, C'est un bon souverain. Je ne sais pas, la fierté d'être chrétien, la fierté d'être enfant de Dieu, la fierté de le servir. On n'a pas cette fierté. Et justement parce qu'on n'a pas cette fierté, tout, c'est pourquoi on ne se consacre pas. On ne veut pas faire des efforts parce qu'on a honte. On a honte. On a honte. Est-ce que ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce que ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Combien d'entre nous ont honte du Seigneur? Il faut lever la main. On va prier pour toi après. On a honte. Pourquoi tu as honte justement? Parce que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Tu as honte parce que tu ne sais pas ce que tu es. Tout part de ton identité, donc de ta vocation. C'est pourquoi j'ai dit que la vocation est fondamentale, la compréhension de la vocation. Si tu as honte de Dieu, de ce que tu es devenu, c'est parce que tu n'as rien compris à la vocation. Est-ce que tu sais que tu as un privilège d'être ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu sais ça? Que les gens qui ont vécu à l'époque de Moïse, de Josué, ils ont viré. Oh, d'ici, ils savaient, ces gens-là. Oh, s'ils savaient le privilège qu'ils ont d'être le choix de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Ils ont la parole de Dieu. Avec tout ça, ils ne réalisent pas qu'ils ont un privilège. Les anges travaillent en leur faveur. Est-ce que tu sais que les anges travaillent en ta faveur? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas ça. Parce que tu n'as pas une idée réelle de ce que tu es devenu. Donc eux, quand ils regardent, ils sont scandalisés. Ils se disent, mais si à notre époque, on était comme ces gens-là, peut-être qu'on aurait fait des choses plus grandes. Mais aujourd'hui, regarde-toi, regarde ta chrétienté, regarde ta vie de prière, regarde ta vie chrétienne. Est-ce que tu es heureux là? Sois sérieux. Est-ce que tu es heureux depuis que tu as accepté Jésus là? Comment tu vis ta vie? Elle est comment? Comment tu es? Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as même la joie de servir Dieu là? Même prier là, c'est des problèmes. Aller à l'église, c'est des problèmes. Tu n'arrives pas. Bon, tu viens par accoutumance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris justement ce que tu es devenu. Regarde, je vais te dire une chose. La Bible nous parle de nouvelle naissance. Mais en réalité, lorsque nous nous regardons dans la glace, il n'y a rien qui a changé, n'est-ce pas? Depuis que tu as accepté Jésus là, est-ce que tu as changé physiquement? Dis-moi un peu. Est-ce que ton âge a changé? Tu es resté la même personne. Mais la Bible nous parle de nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance a eu lieu où? Hein? Depuis que tu l'as accepté, on parle de nouvelle naissance là. Regarde-toi, tous les matins tu te regardes, tu recèles. Le jour que tu l'avais accepté là, quand tu t'es regardé à la glace, est-ce que tu étais devenu un bébé? Tu étais resté la même personne, hein? Même âge, même caractère, la même personne. La même personne. C'est-à-dire que lorsque les gens te regardaient du point de vue extérieur, il n'y a rien qui a changé. Mais la Bible dit qu'il y a quelque chose qui a changé. Les hommes ne voient aucun changement du point de vue extérieur, mais la Bible dit qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Ça commence à l'intérieur au niveau de ton esprit. Nouvelle naissance. Ça se passe à l'intérieur. Donc tu dois savoir que depuis que tu l'as accepté, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ta vie, mais que les hommes ne voient pas. Mais toi, tu te conduis comme s'il n'y avait pas un travail spirituel qui se faisait. Tu te conduis comme autrefois. Il y a un problème, peuple de Dieu. Vous savez, on ne peut pas progresser avec Dieu. Je ne pourrais pas prêcher des enseignements, des messages. Ça, ce sont les basiques. Si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que je ne peux plus prêcher autre chose. Il faut que vous compreniez ces vérités. Toutes les autres connaissances, toutes les autres révélations, ça ne va pas vous aider. Même si je vous prêche recto verso, tout le monde va dire amen. Mais tu as quelle base? Après, quand tu vas traverser des circonstances difficiles, tu as quelle base? Qu'est-ce qui va te maintenir? Qu'est-ce qui va te garder? Qu'est-ce qui va te stabiliser? C'est quoi? C'est pas recto verso. Hein? Il faut avoir des bases. Il faut avoir quelque chose. Et tout commence par ce que tu es devenu en Jésus. Ce n'est pas seulement des slogans, c'est quelque chose qui se vit. Ça se vit, peuple de Dieu. nous servons Dieu et nous devons être fiers de le servir. Si tu as honte de Dieu, il a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui. Si tu as honte de ton Jésus, sache que lui aussi a honte de toi. Je te dis la vérité. Il aura honte de toi. Si tu ne le reconnais pas devant les hommes, il ne te reconnaîtra pas, mon Dieu. C'est la règle d'or. C'est la règle d'or. Et nous prendrons le temps de revenir sur ces sujets. Et le troisième point qu'on va voir ce matin, il parle d'une nation sainte. La nation sainte, ici, nous avons un élément de la doctrine, c'est la sanctification. Ces éléments, je vous les donne comme ça, mais nous allons revenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en détail. Ce sont les éléments de la doctrine. La Bible dit que nous sommes une nation sainte. C'est pourquoi vous allez remarquer que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, on revient toujours sur la doctrine. Ici, lorsque nous parlons d'une nation sainte, nous faisons allusion à la sanctification qui est un point de doctrine. L'Église doit comprendre qu'elle est sainte par vocation. C'est pourquoi la Bible dit qu'il viendra chercher une Église qui se sanctifie, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La sanctification, tu es appelé par Dieu pour te sanctifier, pour te mettre à part, pour te séparer du mal, pour te séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu. Tu dois comprendre que la sanctification, comme je l'avais dit la dernière fois, ce n'est pas quelque chose d'étrange pour l'Église, mais c'est la vie normale de l'Église. Le chrétien, quand on prêche la sanctification, ne doit pas être de ceux-là qui disent « Oh, c'est le message de la condamnation ». Non, c'est la vie normale de l'Église. Donc, quand on parle de sanctification, il ne faut pas que vous soyez tristes, que vous baissez la tête, vous vous dites, oh là là, aujourd'hui le pasteur, quel message il nous a apporté. Mais c'est la vie normale de l'Église. Ça ne devrait pas poser un problème. Parce que la nouvelle création que Dieu est en train de faire en toi, par essence, l'être nouveau, il est saint. Il ne pêche pas. On est des saints en Jésus, n'est-ce pas? La sanctification, c'est quelque chose de normal. Je vous ai dit la dernière fois, c'est comme se brosser le dent chaque matin. C'est quelque chose de normal. Pour l'Église, sanctification, ça doit être un sujet de joie. Waouh, merci Seigneur. On me rappelle qu'il faut que je me brosse les dents. En fait, c'est ça. On me rappelle que je dois laver mes vêtements qui sont sales. Ça doit être quelque chose de normal. Sanctification. Une nation sainte. Et Dieu le définit. Il dit, vous êtes une nation sainte. Votre vie, c'est la sainteté. Chaque jour qui passe, vous devez faire en sorte de vous séparer de ceux qui n'honorent pas le Seigneur. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Ce sont des éléments, je suis en train de dire, que ce sont des éléments de base qui sont révélés dans Pierre, que l'Église doit comprendre. Mais nous y reviendrons en long et en large, parce que si nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, on ne comprend pas ça, tout ce qu'on pourra recevoir par la suite, c'est zéro, parce que tout converge dans ce sens. Et l'autre point, puisqu'on va juste lire, voir les grandes lignes, il dit un peuple acquis. Un peuple acquis, ça veut dire que nous lui appartenons entièrement. Et ici, nous avons un point de doctrine que nous appelons la rédemption. Nous avons été rachetés pour appartenir au Seigneur. Donc l'apôtre Pierre nous parle de la doctrine. Un peuple acquis, ici nous faisons allusion à un point de doctrine qu'on appelle la rédemption, le rachat. Nous sommes rachetés pour être la propriété de Dieu. Ça veut dire que ton temps, tes dons, tes talents, tes biens matériels, financiers, tout ce que tu possèdes, c'est pour le Seigneur. Et c'est ce point-là de rédemption que l'Église ne comprend pas jusqu'à présent. Que tu ne t'appartiens pas. Et lorsque l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est quelqu'un qui a compris la rédemption. Il a compris qu'il ne s'appartient plus. Il appartient à Dieu. La rédemption. Et nous le verrons dans les prochaines semaines. À cause de celui qui est le rédempteur, qu'on appelle le Goël. Le Goël, c'est celui qui a le droit de rachat. Et notre Goël, c'était bien sûr Jésus-Christ. On le verra prochainement. Ce que je suis en train de faire ce matin, c'est je vous donne la charpente. La charpente de ce que tu dois comprendre en tant qu'Église. Si tu ne comprends pas que tu ne t'appartiens plus, tu vas avoir des problèmes. Nous sommes une nation, un peuple qu'il a acquis. Il a acquis pour lui, ce n'est pas pour toi. Tout ce qu'il a fait à la croix, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Nous lui appartenons, et ça aussi c'est un problème. On n'est même pas heureux de savoir qu'on a un nouveau maître. Alors qu'il y a des hommes dans la Bible qui avaient compris ce concept, qui se disaient même, oh je suis l'esclave de Christ. Regardez un monsieur comme Paul. L'apôtre Paul qui disait qu'il était l'esclave de Jésus-Christ. Est-ce que toi tu peux le dire que tu es son esclave? Je suis son esclave. L'esclave de Jésus. La propriété de Dieu. Moi, je, il faut que notre moi meure. Il faut que notre moi meure. Moi, je dois mourir. Moi, je dois mourir. Seigneur, mes biens sont à toi. Fais-en ce que tu veux. Seigneur, je te consacre mon temps. Les talents que j'ai me viennent de toi, Seigneur. Mais après, tu te dis, non, ça c'est bon, ça c'est pour Jésus, ça c'est pour moi. Vous savez, on fait un peu comme Ananias et Saphira. Hein? On donne une partie et on garde l'autre partie. Il faut tout donner au Seigneur. Et là aussi, c'est un élément qui est très difficile pour l'Église, on a du mal. C'est difficile. Et je vous ai dit la dernière fois, s'il n'est pas le Seigneur, il sera. S'il n'est pas le Seigneur de tout, il ne sera jamais le Seigneur. Il doit être le Seigneur. Et si aujourd'hui nous ne reconnaissons pas qu'il est le Seigneur, il arrivera un jour où toutes les nations, tout le monde reconnaîtra qu'il est Seigneur. Seigneur, je me mets à ta disposition. Seigneur, cinquième élément de cette charpente que nous sommes en train de voir ensemble. On dit que nous sommes un peuple acquis pour annoncer les vertus de Jésus. Ça veut dire quoi? Nous avons un élément important aussi. Ici, c'est l'évangélisation, bien entendu, parce que annoncer les vertus de Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, annoncer que Jésus est bon. C'est ça l'évangélisation. Évangélisons. Annonçons les vertus de Jésus. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit encore, Jésus qui relève encore, Jésus qui pardonne encore. Annonçons les vertus de Jésus. Évangélisation. Parler de la part du Seigneur Jésus-Christ au monde. Parler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous et ce qu'il est capable de faire pour les autres. L'évangélisation. Et ça... Aussi, l'Église doit comprendre, pas se dire qu'il faut seulement qu'il y ait un groupe d'évangélisation à l'Église pour évangéliser. L'évangélisation fait partie de la vocation de l'Église. L'Église doit évangéliser et ce n'est pas seulement l'affaire d'un groupe d'évangélisation, c'est l'affaire de tout chrétien. Dans ton milieu, dans ton environnement, tu dois être à mesure de parler de Jésus, de parler de ce que Jésus a fait pour toi et de ce qu'il est capable de faire pour le monde qui ne le connaît pas. Amen. Évangélisation. Et on reviendra sur ces éléments. Ce n'est pas seulement une affaire d'un groupe. À qui pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire annoncer les vertus de Jésus-Christ. Et généralement, dans l'évangélisation et tout ça, là, les gens ont du mal, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais tu n'as pas grand-chose à dire, raconte ton histoire. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à évangéliser? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas une histoire avec Jésus. Tu t'es retrouvé là, bon, depuis tout petit, les parents t'emmenaient à l'église et puis te disent, je suis chrétien, ça y est, tu n'as pas une histoire avec Jésus. Mais tu peux raconter ton histoire à celui qui ne connaît pas Jésus. Et obligatoirement, ça va converger avec Jésus, puisque Jésus était là dans ton histoire. Donc, si tu as une histoire avec Jésus, tu étais quelque part, dans une situation, Jésus est venu, il t'a relevé, il t'a visité, tu as une histoire à raconter. Il y a certainement quelqu'un dans ton environnement qui a traversé certainement les mêmes situations que toi. Ton histoire peut bénir quelqu'un. Mais si tu n'évangélises pas, c'est parce que justement, tu n'as pas une histoire à raconter. Les gens pensent qu'évangéliser, c'est venir voir quelqu'un, Jésus t'aime. Non, Jésus t'aime, il faut avoir la révélation pour le dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Parce que tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime, il te dit, ben oui, alors, il m'aime. Très bien, ça. Quand vous dites Jésus t'aime, là, il faut que le Saint-Esprit vous conduise à le dire, parce que Nicky Cruz, c'est pas vous, hein, c'est pas tout le monde. Mais comme nous, dans la tradition chrétienne, on n'a rien compris, alors quand on voit quelqu'un, hey, Jésus t'aime, ben oui, Jésus m'aime, mais il y a tant de souffrances. Si Jésus m'aimait, pourquoi je souffre? Vous allez rentrer dans des débats inutiles parce qu'il va te dire, mais alors si Jésus m'aime, moi j'ai tant de difficultés, tant de problèmes, pourquoi il n'agit pas? Toi, tu vas dire quoi à cette personne? Tu as une histoire à raconter. Paul avait une histoire à raconter. Quelle est ton histoire? Tu étais quelque part. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Jésus qui a intervenu. C'est parce qu'il y a eu Jésus. Tu as une histoire à raconter. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas une histoire. Et enfin, il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et ça, c'est un élément important que nous devons savoir dans cette charpente. Ça veut dire que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, nous sommes des pèlerins. Nous n'avons pas de cité terrestre. Nous avons une cité qui est céleste. Et bien entendu, on parle de l'espérance de l'Église. L'espérance de l'Église. L'Église a une espérance. C'est que nous avons une cité qui est céleste. Nous attendons la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ d'une part et la nouvelle Jérusalem d'autre part. Il faut que l'Église comprenne qu'elle a une espérance. L'Église doit comprendre, tu dois comprendre que tu n'es pas appelé à rester toute ta vie, toute ton éternité sur la terre. Non, tu es pèlerin. Avoir l'esprit du pèlerin comme Abraham, qui avait ses tentes et qui bâtissait des hôtels dans sa marche avec Dieu. Nous sommes de passage sur la terre. Malheureusement, ça aussi, l'Église ne comprend pas ça. C'est pourquoi on s'attache. Quand Dieu veut bousculer là-bas, on ne veut pas parce qu'on a pris racine. Non, il dit, vous êtes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Un voyageur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'abord un arrêt fixe puisqu'il va vers un but. On dit des voyageurs, oui, parce que nous allons quelque part avec Dieu. Donc, nous ne sommes pas des touristes sur la terre. Nous allons quelque part. Nous sommes là parce qu'il y a une marche. Nous allons quelque part. Et nous attendons le retour de Jésus. La délivrance finale, c'est lorsque Jésus reviendra. Nous serons délivrés. Et non seulement Jésus reviendra, nous sommes heureux de savoir qu'il y a cette ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que quelquefois ça t'a même traversé l'esprit de savoir que quelque part nous allons à la Nouvelle Jérusalem? On oublie ces choses, mais ces vérités-là, on ne va pas les oublier à l'Église. Je vais vous les rappeler. L'Église a une espérance. L'Église a une espérance. Le retour de Jésus-Christ et la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Autour de cette charpente, tu vas méditer chez toi, mais nous on te pose un certain nombre de questions par rapport à ta vie. Est-ce que ce sont des vérités que j'ai comprises, Seigneur? Non, je ne les ai pas encore comprises. Alors, aide-moi, Seigneur, à les comprendre. Parce que nous sommes ton bien. Seigneur, nous sommes ta propriété. Nous allons quelque part. Nous avons un service à faire sur la terre. Nous devons parler de toi, Seigneur. Nous devons nous mettre à ta disposition, nous séparer, toujours pour t'honorer, Seigneur. Voilà comment dans ta relation avec Dieu, quand tu es dans ton intimité, tu peux lui parler en fonction de ses vérités et pour dire au Seigneur, c'est vrai. Mais quelquefois, on est là, on ne sait même pas où on va, on ne sait même pas ce qu'on est devenu. On est là, on tombe dans la routine. Et puis voilà, tu t'ennuies dans ta relation avec Dieu parce que tu ne sais pas où tu vas avec le Seigneur. Tu ne sais même pas ce que tu es devenu. Tu t'ennuies dans la présence du Seigneur. Je n'ai même pas les sujets que tu dis au Seigneur par rapport à notre espérance. Soutiens-moi, fortifie-moi. Oh, je ne veux pas rater ton retour, Seigneur, au son de la trompette, Seigneur. Je veux être parmi ceux-là qui vont écouter et qui vont partir, oh Seigneur. Je sais que tu reviens bientôt, oh, à cause de cela, Seigneur. Il y a des hommes et des femmes dans ma famille qui ne te connaissent pas. Seigneur, fais grâce qu'ils puissent te connaître parce que tu reviens bientôt. Oh Seigneur, il y a des hommes dans mon quartier qui ne te connaissent pas. Donne-moi la force, le courage, la sagesse, la manière, les méthodes de pouvoir leur parler de toi par mon histoire. On a beaucoup de choses à dire au Seigneur. Ce matin, nous allons prier. J'ai voulu nous rappeler ces vérités comme étant des charpents. Parce que je vous dis la vérité, en 2008, il faut que quelque chose change dans votre vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un chrétien seulement pour venir à l'église le dimanche. Non. Tu n'es pas fatigué de cette vie, vraiment. Tu es seulement chrétien pour venir à l'église le dimanche. Mais dans ton quotidien, dans la semaine, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. À rien. Tu es chrétien seulement pour le dimanche. Non, moi je ne veux pas être un chrétien du dimanche. Je veux jusqu'à ce que le Seigneur revienne, que je sois sur cet instrument-là, qu'il va utiliser. Je veux être un instrument de Dieu. Et quand je prends conscience que je suis un instrument du Seigneur, alors je vais me sanctifier. Je me mettrai à sa disposition. Il faut comprendre ces choses. Vous aimez quand vous dites des choses, alléluia, Dieu va te bénir, 2008 là, il y aura des grandes choses, tout le monde sera content. Là on va se dire, ah le pasteur avait l'onction, je dis c'était un bon culte. Mais non, aujourd'hui j'ai voulu vous parler, tout simplement vous parler. Est-ce que vous aimez ça? Je vous connais, peuple de Dieu, je vous connais. J'ai dit non, il n'y a pas d'excitation ce matin, il n'y a rien. Ce matin, je vais repréciser un certain nombre de choses, il n'y a pas d'excitation. Mais quand vous êtes habitué à me voir gesticuler, à m'agiter, dire « Ah, le pasteur aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas l'onction. » Non, l'onction n'est pas dans le fait de gesticuler devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas ça l'onction, vous comprenez mal ce que c'est l'onction. La parole de Dieu, la vérité, c'est elle qui a franchi.
Amen.
Et l'onction brise le jour, donc c'est la même chose. Il faut comprendre ces choses. C'est ce... Jésus-Christ, il enseignait les gens normalement, il parlait avec eux, il marchait, il enseignait. C'est pas ça tout simple. Est-ce que Jésus-Christ gesticulait devant la foule? Mais ça n'empêchait pas aux gens de recevoir ces vérités. Alors ce matin, j'espère qu'il y a quelqu'un ce matin qui a compris ces choses. Est-ce que vous aimez trop? Avec moi, vous aurez beaucoup de surprises parce que je ne vais pas toujours faire ce que vous voulez que je fasse. Il y a des moments conduits par l'Esprit du Seigneur, on va gesticuler. Mais non, il ne faut pas le faire parce que vous allez acclamer. Non, 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 non. On doit enseigner l'Église. Parce que si je ne le fais pas ainsi, je ne vous rendrai pas service. Si on ne vous donne que ce qui est superficiel, alléluia, reçois ton miracle, t'équipe, ah, tout le monde va tomber, le pasteur a l'onction. Non, je ne vous rendrai pas service parce que après le t'équipe là, après le t'équipe là, qu'est-ce qui va rester? Hein? T'équipe. Vous savez ce que c'est t'équipe? Tu vas voir le t'équit, mais après, tu as un quotidien, jour après jour, tu traverses des difficultés dans ton quotidien. Comment tu vas faire? Tu n'as même pas de base, tu n'as rien, aucun fondement. Toi, tu vas chercher le t'équit, mais le t'équit, là, il faut avoir la révélation du Saint-Esprit pour faire le t'équit. Ne cherchez pas le t'équit, mais cherchez le fondement. Cherchez à vous enraciner dans la parole, dans la connaissance de Jésus-Christ, plutôt qu'à rechercher les t'équit. Je vois les gens sourire. Mais c'est ce que l'église d'aujourd'hui cherche. L'église d'aujourd'hui, c'est une église du divertissement. L'église du spectacle. On vient, en fait, quand nous venons à l'église le dimanche, c'est comme un show télévisé. Il y a un monsieur qu'on appelle le prédicateur avec le micro et qui fait tout pour animer la salle. Il fait du show. C'est ce qui est devenu l'église d'aujourd'hui. Une église du divertissement. Et si on ne s'est pas diverti, on se dit, ah, aujourd'hui, le culte n'était pas bon. Hein, vraiment... senti, le pasteur aujourd'hui n'était pas très chaud. Hein. Vraiment, mais non, on ne le connaît pas comme ça, oui, parce que l'habitude, vous êtes habitué au tekit. Vous êtes habitué à ce qu'on puisse crier pour dire Jésus a perdu aussi. Non, non, non. Moi, je suis là pour vous dire que ces vérités sont fondamentales. Ce sont des bases pour l'Église par rapport à notre vocation. L'Église a une vocation et ces éléments font partie de la vocation de l'Église. Et comme nous allons comprendre la vocation de l'Église, tout le reste, il n'y aura même pas à vous tirer. Il n'y aura même plus besoin de faire le gendarme pour dire « Mais toi, pourquoi tu vis comme ça, le péché ?» Non, 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 toi-même, tu vas commencer à veiller sur toi-même. Pourquoi ? Parce que tu sais que j'ai une vocation. À cause de ce que je suis devenu en Jésus-Christ, je ne peux plus faire ça. Amen. Voilà, donc on va prier le Seigneur. Seigneur, que ta parole trouve la place dans mon cœur. Pour cette nouvelle année qui va commencer. Seigneur, je veux comprendre ces vérités. Je veux les comprendre. Je veux que tu pries le Seigneur. Peut-être que tu ne les avais pas comprises. Tu ne connaissais même pas ces choses. Mais je veux dire que le Seigneur a voulu que tu les entendes ce matin pour que tu médites là-dessus. Médite sur la vocation de l'Église. Médite sur ce que tu es devenu en Jésus. Médite sur les attentes de Dieu par rapport à toi qui es l'Église. Médite là-dessus. Et bâtis ta vie en fonction de ce que tu es en Christ Jésus-Christ. Ce que Dieu veut que tu fasses à cause de ton identité. À cause de ta vocation. Médite. Réfléchis. Que Dieu t'aide. Alléluia. Seigneur, je te prie pour moi-même aussi ce matin parce que nous courons tous. Seigneur, je veux comprendre aussi que je suis ton choix, l'élection de Dieu. Et que tu nous as élus avant la fondation du monde, éternel Dieu. Seigneur, je veux aussi comprendre ce matin que je suis acquis par toi, je suis ta propriété. Tu m'as racheté, tu as payé le prix pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Seigneur, je veux encore comprendre ce matin que je suis à ton service, je te sers, que je fais des fonctions sacrées et que mon service n'est pas vain. Je sers pour le royaume sur la terre. À cause de cela, donne-moi de réaliser combien je dois me sanctifier, Seigneur Dieu. Père éternel, je te prie ce matin afin que tu m'aides à réaliser, à comprendre que je dois parler de toi. Je suis ton ambassadeur. Évangéliser, parler de toi, ô Dieu, aide-nous, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Te prions, éternel Dieu, encore une fois ce matin, afin que nous comprenions que nous sommes des pèlerins, voyageurs sur la terre, alléluia. Voyageurs sur la terre, et que notre cité n'est pas de ce monde, notre cité est à venir. Ton retour, nous l'attendons. La nouvelle Jérusalem, nous y entrerons, Seigneur. Voilà l'espérance. Nous sommes un peuple qui a une espérance. Que ces vérités ne s'éloignent point, Seigneur Dieu, de mon esprit. Que ces vérités ne me quittent pas, comme tu l'as dit dans le Proverbe, que cela soit lié, attaché, Seigneur, à mon cou. Grave-les dans mon cœur, Seigneur, ces vérités. Et que ton esprit m'aide à comprendre la profondeur de ces vérités. Que je ne m'appartiens pas, que tout ce que j'ai me vient de toi. Seigneur Dieu, nous sommes à toi, tu es à nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous à comprendre que nous avons une vocation. Aide-nous à comprendre qu'avec toi nous allons quelque part. Aide-nous à comprendre que nous sommes devenus quelqu'un avec toi. Aide-nous à comprendre, Seigneur Dieu, que nous avons un service à faire pour toi. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que nous avons des dispositions et disponibilités que nous devons manifester, Seigneur Dieu, pour toi. Aide-nous à comprendre que nous sommes tes ambassadeurs sur la terre et que le monde a besoin de notre témoignage. Ma famille, mes amis, mon environnement, mon pays, ma génération a besoin de mon témoignage, Seigneur Dieu. Aide-nous, aide-moi à le comprendre, à le réaliser en ces jours qui sont les derniers. Tu as dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Seigneur, aide-nous, nous te supplions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces vérités soient imprimées dans nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.